Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Cette semaine, nous allons aborder plusieurs sujets. Nous allons évidemment commencer par le sujet qui intéresse tout le monde en ce moment, la venue du Saint-Père en France et en particulier à Lourdes. Cette semaine, vous avez participé à une conférence de presse à Paris avec les trois évêques dont les diocèses sont concernés par la venue du Saint-Père. Alors justement, ma question à ce sujet-là, c'était quel est le point commun, puisque Paris, Lourdes, Metz, ce sont quand même trois diocèses, trois réalités, sans doute trois raisons pour le Saint-Père différentes, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous lie?
Bien, ce sont dans les trois lieux des réalités différentes de ce que vit l'Église en France que le Saint-Père rencontrera. Paris n'est pas Lourdes, Lourdes n'est pas Metz et Metz n'est pas Paris ni Lourdes, mais chaque fois c'est quand même le point commun, c'est que nous sommes des lieux de l'Église qui est en France, de l'Église catholique qui est en France, et il y a des caractéristiques communes à tout ce que nous pouvons vivre dans ces divers lieux, alors avec peut-être quelque chose d'un peu sensiblement différent pour Lourdes à cause de son caractère international, c'est un sanctuaire, mais tout de même les réalités de l'Église de France sont présentes à Lourdes, notamment à partir de tout ce qui se vit au service de ce qu'on appelle les différentes précarités que le pape rencontrera le dimanche après-midi à l'accueil Notre-Dame.
Avec les autres coordinateurs et les autres personnes, enfin les autres évêques et puis toutes les personnes qui sont impliquées, quand vous vous parlez, quand vous échangez sur les préparatifs de ce voyage apostolique, au fond, qu'est-ce qui ressort? Parce qu'on parle toujours du travail et des aspects logistiques, mais dans le fond, dans l'attente spirituelle, qu'est-ce que vous partagez à ce niveau-là?
Alors, j'ai pu constater mardi, à l'occasion de cette conférence de presse commune au siège de la conférence des évêques, parce qu'il y avait les trois évêques concernés, une petite vidéo aussi de l'évêque de Saint-Denis, qui, à la maison Bakita, va pouvoir accueillir le Saint-Père également, en région parisienne, et puis le président de la conférence des évêques, bien sûr, qui l'accueille dans l'église qui est en France. Voilà. Et donc, tous ensemble, ce qu'on partage, je dirais, ce que j'ai pu constater, c'est d'abord l'enthousiasme, la joie, l'émotion de constater cet engouement, c'est le terme qui est souvent revenu, suscité par la visite du Saint-Père ici, alors avec, après, l'inquiétude de devant la l'inévitable frustration de beaucoup de gens qui n'auront pas eu la possibilité de s'inscrire avant, ou qui, quand ils l'ont fait, sont tombés devant des lieux déjà remplis. Et voilà, donc de la frustration d'un certain nombre de personnes victimes ou d'associations qui accompagnent des personnes victimes par rapport au format qui a été choisi pour ce temps de rencontre, voilà. Mais malgré cela, c'est tout d'abord le partage de l'enthousiasme et de la joie de ce que l'annonce de cette visite a déjà suscité, et de ce que l'impatience d'entendre ce que le pape nous dira creuse dans le cœur de beaucoup, y compris de médias. Il y avait près de 200 journalistes présents à cette conférence de presse, et le climat était bon, il y avait du respect, il y avait des questions, de la liberté, chacun dans son genre littéraire et la ligne de son journal, mais franchement, on sent qu'il y a du respect derrière la figure du Saint-Père et ce qu'il représente, et sans doute ce qu'il va dire, on peut deviner à peu près un certain nombre de thèmes qu'il pourrait aborder, après, il le fera avec son charisme propre.
Alors, il y a des personnes qui ne se sentent pas forcément concernées, soit parce qu'elles elles ne sont pas catholiques ou parce que cet événement n'est pas vraiment un événement pour elles. Néanmoins, la vie, l'organisation à Paris, à Lourdes ou à Metz va être un peu chamboulée quand même lors de ces jours de visite pontificale. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces personnes-là qui peut-être se disent « ça va bien, le pape et les catholiques qui envahissent notre sphère, un petit peu ras-le-bol »
Oui, alors je comprends évidemment très très bien, mais c'est le sentiment partagé par beaucoup de gens qui sont dans des lieux hyper touristiques et qui peuvent être fortement impacté parfois par l'afflux de ces touristes qui viennent déranger leur vie quotidienne, et en même temps ces touristes ils apportent aussi un certain dynamisme au lieu en question, et donc quelque part les retombées, elles sont partagées par tous, de quel ordre qu'elles soient d'ailleurs. Et donc bien sûr je comprends et je leur demande pardon à l'avance pour tout le trouble que au moment de la visite du Saint-Père il y aura localement, inévitable pour la circulation, pour les accès aux extérieurs de Lourdes, pour les résidents locaux. Mais bon, ça va durer une journée et demie, et puis voilà, et puis la vie normale reprendra vite son cours après.
Voilà, l'échéance approche. Nous serons prêts à Lourdes ?
Eh bien, écoutez, en tout cas, on fait tout pour. Et la réunion du comité de pilotage que nous avons eue, comme chaque semaine, ces derniers jours à Lourdes, a montré finalement une certaine sérénité qui est là, parce que tout le monde voit que les différentes responsabilités, lieux, services dans lesquels ils sont engagés, sont bien sur les rails, et qu'il y a tout à penser, qu'en effet, tout le monde sera prêt le moment venu.
Merci, Monseigneur. Alors, la semaine prochaine, nous reparlerons encore du pape. De toute façon, on n'a pas fini d'en parler. On va passer à un deuxième sujet à présent. Ce dimanche, vous allez installer à Bagnères-de-Bigorre l'EAP. Alors, c'est dans une configuration un petit peu particulière, puisque vous n'avez pas pu nommer de curé cette année à Bagnères-de-Bigorre, mais c'est une EAP qui va faire le boulot. Peut-être que ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Est-ce que les membres de cette EAP sont des pseudo-curés ?
Alors, l'EAP qui va être installé n'est pas... Alors, c'est le même terme qui désigne deux réalités un petit peu différentes. L'EAP que je vais installer dimanche à Bagnères est sensiblement différente de l'EAP à laquelle on est habitué normalement dans les paroisses du diocèse. Les EAP normales sont nommées, choisies par le curé, alors que celle-là, elle est choisie et nommée par l'évêque. Et le curé partage sa responsabilité pastorale sur le territoire d'une paroisse, habituellement à un prêtre nommé curé. Et là, pendant un an, le droit canonique me donne la possibilité de partager cette responsabilité pastorale sur le territoire de la paroisse concernée, non pas à un prêtre nommé curé, mais à un groupe de fidèles de la paroisse nommés par l'évêque pour assumer la charge pastorale de cette paroisse. Pour cela, ils vont être équipés par la nomination, par l'envoi en mission qui sera fait dimanche, pour pouvoir partager cette responsabilité pastorale de l'évêque. Et ils seront soutenus par un prêtre, le vicaire général, nommé modérateur de la charge pastorale et muni des pouvoirs juridiques du curé. Alors, il n'est pas le curé, l'EAP n'est pas le curé, la paroisse attend un curé, et dans l'attente du curé, l'EAP, soutenu par un prêtre modérateur, muni des pouvoirs du curé, assure la mission pastorale, j'ai envie de dire minimale, c'est-à-dire l'accueil des demandes, des fidèles, la préparation des sacrements, enfin la vie normale de la communauté, sans se lancer dans de grands projets ou prendre de grandes décisions qui engagent l'avenir, parce que pour cela, il faut attendre le curé. Mais cette façon de faire permet à la communauté de ne pas rester orpheline le temps de trouver un prêtre nommé curé, et permet aussi finalement la préparation de la paroisse pour l'arrivée du futur et nouveau curé. Alors, en parallèle, trois prêtres sont au service de la communauté, en plus des abbés Marcel Lacaze et Guy Ambrosi, habituels au service des paroisses sur les secteurs de Campan et de Pouzac. Mais pour tout le reste, il faut des prêtres pour célébrer, assurer les messes dans les villages, le week-end, la semaine, les services divers et variés. Et pour cela, ce sont des prêtres étudiants. Le père Gracien, encore quelques semaines, qui est bien connu à Bagnères, et puis deux autres prêtres étudiants, un qui était à Tarbes et un qui arrive dans le diocèse, qui vont résider toute l'année au presbytère de Bagnères et qui seront à la disposition de l'équipe, de l'EAP et du modérateur, donc le père Jamais, pour assurer le service des paroisses. Les fidèles ne verront pas de différence. Il y aura autant de messes qu'avant, parce qu'il y aura autant de prêtres qu'avant, peut-être même un tout petit peu plus.
Donc, en fait, l'installation de ce modèle de AP, d'abord, ce n'est pas un modèle qui est fait pour durer, et ce n'est pas une manière de dire que les paroisses et l'Église peuvent se passer de prêtres.
Au contraire, ça creuse la prise de conscience qu'un prêtre nommé curé est indispensable pour la vitalité d'une paroisse et pour que la paroisse puisse porter des projets à long terme et vivre. Or, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, je ne voulais pas nommer dans de conditions pas suffisantes un prêtre curé de la paroisse de Bagnères, parce que c'est une paroisse importante aux yeux du diocèse, c'est une des sous-préfectures du diocèse, elle a beaucoup de caractéristiques qui font que, comme les autres paroisses, mais peut-être plus particulièrement, ou tout particulièrement, soigner la manière d'accompagner cette paroisse. Et donc, j'aurai la possibilité de le faire au mois de septembre l'année prochaine. Je ne l'avais pas au mois de septembre cette année. Et donc, le droit canonique donne cette possibilité d'attente, mais d'attente positive, dans de bonnes conditions, pour permettre l'année prochaine de repartir sur les bases normales de ce qu'est l'Église catholique.
Voilà donc pour l'installation de cette EAP ce dimanche à Bagnères-de-Bigorre. Dimanche dernier, c'était l'ordination diaconale de Corentin Laguens, l'un de nos 6 séminaristes. Peut-être que vous avez envie de dire un mot sur ce jour de fête. C'était vraiment un jour de fête, c'était une belle célébration.
Ah, ben, c'était une belle journée. Ça a été l'occasion d'une journée de rencontre de la pastorale des jeunes, une première journée de rencontre de la pastorale des jeunes depuis longtemps. De toute la pastorale des jeunes du diocèse, et ils ont vraiment vécu une belle journée qui s'est clôturée pour eux par la participation à la célébration de l'ordination. Et puis pour tout le diocèse, les personnes qui étaient présentes dans la cathédrale, les auditeurs de Radio Présence, un très très beau moment qui a pu être partagé aussi autour de l'ordination de Corentin. Voilà, c'est une joie pour le diocèse que de vivre des moments comme celui-là. Il y a bien d'autres moments et bien d'autres joies aussi, mais celle-là en est une particulière également. Dans l'attente, on l'espère, d'une autre ordination diaconale d'ici quelques semaines, avant de pouvoir procéder à leur ordination presbytérale dans plusieurs mois, mais voilà, le moment venu.
Ça fait du bien à la vie du diocèse en tous les cas.
Bien sûr, ça fait du bien, il y avait du monde, il y avait des sourires, il y avait de la paix, de la ferveur, et voilà, et de la joie toute simple, hein. On ne met pas Corentin ou les diacres et prêtres sur un piédestal, et ils ne sont pas établis comme demi-dieux à la tête du diocèse, mais ce sont des frères baptisés qui deviennent ministres de notre église diocésaine.
Ils sont déjà, collaborateurs des diacres et des prêtres, quand ils sont toujours tout frais diacres, ils sont déjà là pour collaborer.
Alors, dès que quelqu'un est ordonné, il entre dans le presbytérium, en quelque sorte, du diocèse. Alors, on parle du presbytérium exclusivement pour les prêtres, mais il y a un corps de diacres. Et d'ailleurs, les diacres du diocèse ont eu la délicatesse d'inviter Corentin samedi pour un temps d'échange, de partage, et qui les a tous beaucoup touchés, aussi bien Corentin, qui a raconté sa vocation, son itinéraire, que les diacres permanents, qui étaient là pour raconter eux aussi leur vocation, et puis ce que porte en commun le diaconat, que ce soit pour des diacres qui le restent, ou pour des diacres qui, un jour, seront ordonnés prêtres. Ils ont en commun d'être diacres, au moins pendant quelques mois, et donc ils ont pu échanger là-dessus, et j'ai eu des échos très très chaleureux et positifs de ce temps très fraternel entre eux.
Merci beaucoup, Monseigneur Mika. Ce dimanche, on peut finir là-dessus. Vous serez aussi dimanche après-midi au sanctuaire Notre-Dame de Garaison, puisque c'est le pèlerinage annuel, le pèlerinage du couronnement de la Vierge au sanctuaire de Garaison. Donc voilà, le matin à Bagnères-de-Bigorre, l'après-midi dans le Magnoac à Garaison.
Voilà, et ce temps commencera par la prière du chapelet à partir de la source et du lieu des apparitions à Garaison, donc au chevet de la chapelle, et qui sera suivi ensuite par la célébration de l'Eucharistie.
Merci, Monseigneur. À la semaine prochaine.
Bonne semaine.